Dernière ligne droite de cette série, il y a encore plusieurs volets, mais qui vont tous traiter du même sujet, la vie de l'âme et la croix. C'est un sujet que je sais difficile et que j'aborde avec une certaine crainte quand même, parce que c'est très intime et ça touche à un sujet qui nous laisse souvent désarmés et perplexes. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Se charger de sa croix et le suivre veut dire que nous nous acheminons vers la mort, rien d'autre que cela. Et c'est une démarche que nous produisons à contre-cœur. Et je crois qu'il sera nécessaire de l'aborder en plusieurs fois. Et déjà, ce volet est coupé en deux pour que nous ayons le temps de le méditer et d'en tirer toutes les conséquences. Dieu a pleinement pourvu à notre rédemption par la croix de Christ, mais il ne s'est pas arrêté à cela. Dans cette croix, il a aussi assuré, contre toute possibilité d'échec, ce dessein éternel dont Paul nous dit qu'il a été caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce dessein, il l'a maintenant proclamé, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit manifestée par l'Église, aux dominations et aux puissances dans les lieux célestes, suivant son dessein éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Éphésiens 3, versets 9 à 11. Nous avons dit que de l'œuvre de la croix résultent deux conséquences liées directement à l'accomplissement de ce dessein en nous. D'un côté, par cette œuvre, la vie de Christ a été libérée pour être répandue et trouver son expression en nous par le moyen du Saint-Esprit qui demeure en nous. De l'autre côté, elle a rendu possible ce que nous appelons porter sa croix, c'est-à-dire notre coopération à l'action profonde et continue de sa mort, pour que cette vie nouvelle soit manifestée en nous à mesure que l'homme naturel est amené à la soumission au Saint-Esprit qui est sa juste place. Ces deux conséquences sont clairement les deux aspects, l'un positif et l'autre négatif, d'une seule et même œuvre. Jusqu'ici, en étudiant la vie chrétienne, nous nous sommes arrêtés principalement sur la crise qui marque son commencement. Nous nous occuperons maintenant de la marche du disciple en ayant plus spécialement en vue son éducation de serviteur de Dieu. C'est de lui que le Seigneur Jésus a dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Il nous faut donc examiner ce qu'est l'homme naturel et ce que signifie porter sa croix. Pour le comprendre, il nous faut une fois de plus revenir à la Genèse et voir ce que Dieu cherchait à avoir dans l'homme au commencement et comment son dessein a été entravé. Nous pourrons, de cette manière, saisir les principes qui nous ramèneront à une vie en harmonie avec ce dessein. Alors même que nous n'aurions qu'une petite révélation du plan de Dieu, nous ne pouvons qu'être frappés par l'importance attachée au mot « homme ». Nous dirons avec le psalmiste « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Psaume 8, verset 5. La Bible nous montre clairement que ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est un homme selon son cœur. Dieu créa donc un homme. Nous apprenons dans Genèse 2:7 qu'Adam fut créé une âme vivante, qu'il avait en lui un esprit par lequel il pouvait être en communion avec Dieu et qu'il avait un corps, pour être en contact extérieurement avec le monde matériel. Certains passages du Nouveau Testament confirment ce triple caractère de l'être humain. Ceci par exemple, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. La parole de Dieu atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Hébreux 4, 12. son esprit, Adam était en contact avec le monde spirituel de Dieu. Par son corps, il était en contact avec le monde physique des choses matérielles. Il réunissait en lui-même ces deux aspects de l'acte créateur de Dieu pour devenir une personnalité, une entité vivante dans le monde agissant par elle-même et ayant la faculté du libre choix. Considéré dans son ensemble, il est ainsi un être conscient et capable de s'exprimer, une âme vivante. Nous avons déjà vu qu'Adam avait été créé parfait. Nous voulons dire par cela qu'il était sans imperfection parce que créé par Dieu, mais qu'il n'avait pas encore été rendu parfait dans l'expérience. Il avait encore besoin d'une dernière retouche. Dieu n'avait pas encore accompli tout ce qu'il avait le dessein de faire en Adam. Il avait quelque chose de plus en vue, mais cela demeurait encore en suspens. Dieu avait progressé dans l'accomplissement de son dessein en créant l'homme. Un dessein qui allait au-delà de l'homme lui-même, qui devait assurer à Dieu tous ses droits dans l'univers grâce à un instrument, l'homme lui-même. Mais comment l'homme pourrait-il être l'instrument de ce dessein ? Uniquement par une coopération découlant d'une union vivante avec Dieu. Dieu cherchait à avoir sur la terre non seulement une race d'hommes d'un seul sang, mais une race où dans chacun de ses membres résiderait en plus sa vie. Une telle race devait finalement triompher de la chute de Satan et contribuer à l'accomplissement de tout ce qui était cher au cœur de Dieu. C'était là ce que Dieu avait en vue dans la création de l'homme. Nous avons vu ensuite qu'Adam avait été créé neutre. Il avait un esprit qui le rendait capable d'être en communion avec Dieu, mais en tant qu'homme, il n'avait pas encore été, pour ainsi dire, définitivement orienté. Il avait le pouvoir de choisir et il pouvait, s'il le désirait, se tourner du côté opposé. Le but de Dieu pour l'homme, c'était l'état de fils, ou en d'autres termes, l'expression de sa vie dans des êtres humains. Cette vie était représentée dans le jardin par l'arbre de vie qui portait un fruit que l'homme pouvait recevoir, accepter et manger. Si Adam, créé neutre, s'engageait volontairement sur ce chemin en choisissant librement d'être dépendant de Dieu, s'il acceptait le fruit de l'arbre de vie qui représentait la vie même de Dieu, alors Dieu partagerait sa vie avec les hommes. Il aurait des fils. Mais si par contre Adam se tournait vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il serait libre de se développer selon ses propres penchants en dehors de Dieu. Cependant, parce que ce dernier choix entraînait la complicité avec Satan, Adam se trouverait ainsi dans l'impossibilité d'atteindre le but auquel Dieu l'avait destiné. Nous connaissons maintenant la voie que choisit Adam. Se trouvant entre les deux arbres, il céda à Satan et prit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela détermina l'orientation de son développement. Dès lors, il disposa d'une connaissance. Il connut. Mais ici, nous arrivons au fond du problème. Le fruit de l'arbre de la connaissance fit du premier homme un être surdéveloppé dans son âme. L'émotion fut touchée parce que le fruit était agréable à la vue et provoqua en lui le désir. La pensée, avec sa force de raisonnement, se développa car il fut rendu intelligent. La volonté se fortifia de sorte que dans l'avenir, il pourrait toujours décider du chemin à suivre. Le fruit servit à l'épanouissement et au plein développement de l'âme, de sorte que l'homme ne fut plus seulement une âme vivante, mais il allait désormais vivre par son âme. L'homme ne possède pas seulement une âme, mais à partir de ce jour, cette âme, avec sa faculté de libre choix, prend la place de l'esprit comme puissance dominatrice de l'homme. Il nous faut ici faire une distinction entre deux choses, la différence étant très importante. Dieu n'est pas opposé au fait que nous ayons une âme, comme celle qu'il a donnée à Adam. Au contraire, il le désire. Mais la tâche que Dieu a maintenant entreprise, c'est de renverser quelque chose. il a aujourd'hui quelque chose dans l'homme qui ne provient pas simplement de l'existence de son âme, mais du fait qu'il vit par son âme. C'est ce que Satan a produit par la chute. Il a poussé l'homme à s'engager dans une voie où son âme se développerait à un tel point qu'elle deviendrait la source même de sa vie. Il nous faut simplement faire attention. Pour remédier à cet état, nous n'allons pas essayer d'anéantir tout ce qui est de l'âme. Si aujourd'hui la croix agit véritablement en nous, cela ne veut pas dire que nous devenons inertes, insensibles, sans caractère. Non, nous possédons encore une âme. Et toutes les fois que nous recevons quelque chose de Dieu, elle nous sera toujours utile, mais comme un instrument, une faculté qui lui sont véritablement soumis. La question reste donc celle-ci. En ce qui concerne l'âme, restons-nous dans les limites fixées par Dieu, à l'intérieur des limites qu'il a établies au commencement dans le jardin, ou sortons-nous de ces limites? Ce que Dieu fait maintenant, c'est le travail démontage du vigneron. Il y a dans nos âmes un développement indiscipliné, une croissance déréglée qui doivent être contrôlées et arrêtées. Il faut que Dieu tranche cela. Il faut que nos yeux soient ouverts sur ces deux aspects de l'action de Dieu en nous. D'un côté, Dieu cherche à nous amener à la place où nous vivons par la vie de son Fils. De l'autre côté, il poursuit une action directe dans nos cœurs pour détruire cette autre source naturelle qui est le résultat du fruit de la connaissance. Nous apprenons chaque jour ces deux leçons, un accroissement de la vie de son Fils et un arrêt et une mise à mort de la vie de l'âme. Ces deux actions se poursuivent sans cesse, car Dieu cherche le développement parfait de la vie de son Fils en nous, afin de pouvoir se manifester lui-même. Et dans ce but, il nous ramène en ce qui concerne notre âme au point de départ d'Adam. Paul dit à ce sujet, « Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » 2 Corinthiens 4, 11. Je relis ce verset. « Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement que je n'entreprendrai rien sans me confier à Dieu. Je ne trouverai aucune capacité en moi-même. Je ne ferai aucun pas simplement parce que j'ai le pouvoir de le faire. Alors même que j'aurai hérité d'un tel pouvoir, je ne m'en servirai pas. Je ne mettrai aucune confiance en moi-même. En prenant le fruit, Adam devint possesseur d'un pouvoir d'action inhérent, mais d'un pouvoir qui le livra directement entre les mains de Satan. Nous perdons ce pouvoir d'action lorsque nous en arrivons à connaître le Seigneur. Le Seigneur nous l'enlève et nous découvrons qu'il nous est désormais impossible d'agir dans notre propre initiative. Nous devons vivre par la vie d'un autre. Nous devons tout recevoir de lui. Je crois que nous tous, nous nous connaissons nous-mêmes dans une certaine mesure, mais trop souvent, nous ne tremblons pas à cause de ce que nous sommes. Nous pouvons dire, avec une sorte de courtoisie envers Dieu, « Si le Seigneur ne veut pas cela, je ne puis pas le faire. » Mais en réalité, nous avons inconsciemment le sentiment que nous pouvons très bien agir par nous-mêmes, alors même que Dieu ne nous le demande pas et ne nous en donne pas la force. Nous sommes trop souvent poussés à agir, à penser, à décider, à manifester notre force indépendamment de lui. Beaucoup d'entre nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des êtres dont l'âme est surdéveloppée. Nous sommes devenus trop grands en nous-mêmes. Nous sommes dominés par notre âme. Lorsque nous sommes dans cet état, la vie du Fils de Dieu en nous est limitée et presque entravée dans son action. La puissance, l'énergie de l'âme se trouve en nous tous. Ceux qui ont été à l'école du Seigneur refusent ce principe en tant que principe de vie. Ils refusent de vivre par leur âme. Ils ne veulent pas qu'elle domine et ne lui permettent pas d'être leur source de force dans l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas été instruits par Dieu se reposent sur elle. Ils l'emploient, ils pensent qu'en elle est la puissance. Prenons un exemple évident. Nombreux sont ceux d'entre nous qui, dans le passé, ont raisonné de la manière suivante. Voici un homme d'un naturel aimable et bon, doué d'une intelligence vive, d'un jugement sûr et possédant une grande aptitude à l'organisation. Nous disons en nous-mêmes, si cet homme était chrétien, quel enrichissement ce serait pour l'Église. Si seulement il appartenait au Seigneur, quelle valeur cela signifierait pour sa cause. Mais réfléchissons un instant. D'où cet homme a-t-il tiré son naturel bon? D'où lui viennent ses attitudes à diriger et sa sûreté de jugement? Non pas de la nouvelle naissance, puisqu'il n'est pas encore né de nouveau. Nous savons que tous, nous sommes nés de la chair, c'est pourquoi il nous faut naître de nouveau. Mais le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 3,6, « Ce qui est né de la chair est chair. Tout ce que je n'ai pas reçu par la nouvelle naissance, mais dont j'ai hérité par ma naissance naturelle, est chair et ne peut apporter de gloire qu'à l'homme, jamais à Dieu. » Cette déclaration peut nous paraître amère, mais elle est vraie. Nous avons parlé de la puissance de l'âme ou de l'énergie naturelle. Qu'est-ce que cette énergie naturelle? C'est simplement ce que je puis faire, ce que je suis par moi-même, ce que j'ai hérité de dons et de ressources naturelles. Aucun d'entre nous n'est dépourvu de cette puissance de l'âme, et notre premier grand besoin est de reconnaître sa nature réelle. Prenons par exemple l'intelligence humaine. Je puis avoir par ma nature un esprit vif. Avant ma nouvelle naissance, je le possédais naturellement comme quelque chose qui s'était développé normalement depuis ma naissance naturelle. Mais c'est ici que la difficulté surgit. Je me suis converti, je suis né de nouveau, une œuvre profonde s'est faite dans mon esprit. Une union essentielle s'est établie avec le Père de notre esprit. Il y a maintenant deux choses en moi. Je suis uni à Dieu par un lien qui a été établi dans mon esprit, mais en même temps, je porte encore en moi quelque chose qui me vient de ma naissance naturelle. Que dois-je faire à cet égard? La tendance naturelle est celle-ci. J'exerçais auparavant mon intelligence pour m'intéresser à l'histoire, aux affaires, à la chimie, aux questions de ce monde, à la littérature, à la poésie. J'employais mon intelligence à puiser ce qu'il y avait de meilleur dans ces études. Maintenant, mes désirs ont changé. J'emploierai donc désormais cette même intelligence dans les choses de Dieu. J'ai donc changé l'objet de mon intérêt, mais je n'ai pas changé ma méthode de travail. Voilà tout le problème. Mes intérêts ont été entièrement changés, que Dieu en soit loué. Mais j'utilise maintenant la même énergie pour étudier les Corinthiens ou les Éphésiens que celle que j'employais autrefois pour étudier l'histoire et la géographie. Mais ceci n'est pas de Dieu et Dieu ne le permettra pas. La difficulté pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons changé le canal qui véhicule nos énergies sans avoir changé la source de ces énergies. Nous verrons qu'il y a une quantité de choses semblables que nous transportons du domaine naturel dans le domaine du service de Dieu. Considérons la question de l'éloquence. Il y a des hommes qui sont des orateurs nés. Ils peuvent présenter un sujet de manière très convaincante. Ils se convertissent et sans nous préoccuper de leur position spirituelle, nous les poussons sur une estrade pour en faire des prédicateurs. Nous les encourageons à employer leur talent naturel pour la prédication de l'Évangile. Seul le sujet a changé, mais la source de l'énergie est restée la même. Nous oublions que lorsqu'il s'agit des ressources nécessaires pour s'occuper des choses de Dieu, ce n'est plus une question de valeur comparative, mais d'origine. Il ne s'agit pas tellement de ce que nous faisons, mais plutôt de l'origine de l'énergie que nous employons. Nous ne pensons pas assez à la source de notre énergie et trop au but vers lequel elle est dirigée, oubliant que pour Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. L'exemple fictif suivant confirmera notre pensée. Monsieur A est un excellent orateur. Il peut parler avec aisance et de manière convaincante sur n'importe quel sujet. Mais pour les choses pratiques, il n'a aucun don naturel. Monsieur B, d'un autre côté, est un piètre orateur. Il n'arrive pas à s'exprimer clairement. Il tourne autour de son sujet sans jamais parvenir à une conclusion. Mais il est un organisateur plein de ressources, compétent dans toutes les affaires pratiques. Ces deux hommes se convertissent et deviennent des chrétiens vivants. Supposons maintenant que je leur demande à tous les deux de prendre la parole lors d'une convention et qu'ils acceptent tous les deux. Que va-t-il se passer? J'ai demandé la même chose à ces deux hommes, mais lequel des deux, à votre avis, se préparera-t-il plus sérieusement par la prière? Certainement Monsieur B. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas orateur. En ce qui concerne l'éloquence, il n'a aucune capacité naturelle sur laquelle il pourra s'appuyer. Il priera « Seigneur, si tu ne me donnes pas le pouvoir de le faire, je ne le pourrai pas. » Sans doute, M. A priera-t-il aussi, mais peut-être pas de la même manière que M. B, parce qu'il a des capacités naturelles sur lesquelles il peut compter. Mais supposons que je leur demande non pas de prendre la parole, mais de se charger de toutes les questions pratiques de la Convention. Qu'arrivera-t-il maintenant? Leur position sera exactement opposée. Ce sera maintenant M. A qui priera avec le sentiment de son besoin, car il sait très bien qu'il n'a aucune capacité d'organisation. M. B priera aussi, mais peut-être pas avec la même ardeur, car tout en reconnaissant son besoin du Seigneur, il n'est pas aussi conscient que M. A de son incapacité dans les questions pratiques. Voyons-nous la différence entre les dons naturels et les dons spirituels. Tout ce que nous pouvons faire sans prière et sans une dépendance totale de Dieu vient de la vie naturelle et nous devons nous en méfier. Nous devons le comprendre très clairement. Cela ne veut évidemment pas dire que seuls soient qualifiés pour un travail particulier ceux qui sont privés du don naturel pour l'accomplir. Le point à souligner, c'est ceci. Que nous possédions des dons naturels ou non, il nous faut connaître le toucher de la croix, qui signifie la mort de tout ce qui est de la nature, et notre dépendance entière du Dieu de la résurrection. Nous envions trop facilement notre voisin qui a quelques dons naturels remarquables, et nous ne réalisons pas que si nous possédions nous-mêmes ce don, en dehors de cette action de la croix, il pourrait facilement être un obstacle à ce que Dieu cherche à manifester en nous. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous continuerons au cours de nos prochains volets à approfondir notre prise de conscience de l'activité dominatrice de notre âme. C'est un sujet difficile, mais fondamental, et il est bon de prendre notre temps pour le méditer.